On va continuer d'évoquer cette lettre adressée aux Français avec également donc la question du moment historique que nous traversons, la manière dont on peut l'interpréter et puis également la façon dont le temps de gouverner est aujourd'hui organisé à la fois par Emmanuel Macron et par les Gilets jaunes qui contestent la politique menée. Nous sommes en compagnie de Christophe Prochasson, directeur de l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et par une historienne également de l'école des hautes études en sciences sociales, Sabina Loriga, qui vient de nous rejoindre. Sabina Loriga, votre interprétation de ce qui est en train de se dérouler en France.
Merci beaucoup. Mais moi, j'aimerais revenir un moment sur ce que Christophe Prochasson a dit sur le fait que nous sommes encombrés de vieux souvenirs dans cette interprétation, ce qui me semble tout à fait correct. Et je pense que ces vieux, rêves, ces vieux démons du passé sont très intéressants à analyser. Lorsque nous regardons un peu les analogies qu'on a proposées dans le débat, et pas seulement par les Gilets jaunes qui n'ont pas proposé beaucoup de suggestions sur le passé, mais les commentateurs en revanche, oui, nous voyons que, bon, vous avez évoqué déjà la Révolution française, la Révolution de Juillet. Dans le groupe Facebook, il y a le tableau de Delacroix, la liberté dans le peuple en gilet jaune, il y a la commune, il y a la crise du février 34, il y a le boulangisme, il y a le poujadisme, il y a mai 68, donc vraiment un ensemble d'événements différents, donc avec aussi des connotations politiques, je dirais, tout à fait différentes. Mais il me semble qu'il y a quelque chose, je dirais, en commun entre ces événements, et c'est le fait que tout renvoie à l'histoire nationale de la France. Mm-hmm. Et qu'on n'a pas, je dirais, des références, des analogies avec d'autres mouvements en Europe. On aurait pu parler, maintenant c'est moi qui propose des analogies qui bizarres, mais les mineurs en Angleterre sous Thatcher, on aurait pu évoquer Solidarność en Pologne. Non, en réalité, toutes les analogies sont centrées sur la France. D'où une question se pose, il me semble, est-ce qu'il y a un retour à l'histoire nationale? Et je dirais un double retour, dans le sens que, d'une part, il me semble que la question de la mémoire n'est pas présente cette fois-ci. Nous avons vécu dans les 30 dernières décennies une grande la mémoire de ce que nous étions a joué un rôle fondamental, alors que là il me semble être moins forte, mais surtout cette dimension nationale. Or, il me semble que ce retour à l'histoire nationale n'est pas quelque chose d'exclusif des Gilets jaunes ou de l'interprétation des Gilets jaunes, mais que c'est quelque chose qui est en train de monter dans la société française, comme dans beaucoup d'autres sociétés européennes, l'Italie, l'Angleterre. Dans le cas de Brexit, toutes les interprétations sur le passé ont des références nationales, la conquête des Normands, le Churchill, etc. Donc, il me semble que après une période, je dirais, de mondialisation de la mémoire et de mondialisation de l'histoire qui a été marquée par le débat sur la Shoah et le communisme, nous sommes en train peut-être de revenir à des débats sur l'histoire nationale.
Et alors, par exemple, en Italie, puisque d'une certaine manière, il y a des analogies que l'on peut faire, Sabina Loriga, je pense notamment à cette consultation que souhaite faire Emmanuel Macron. Elle va se faire au travers d'une plateforme numérique. Or, en Italie, avec le mouvement 5 étoiles, vous êtes aujourd'hui familier à la fois des plateformes numériques et, je dirais, des impasses que celles-ci peuvent parfois introduire dans la gestion donc de la démocratie. Expliquez-nous et dites-nous un peu comment les choses se passent.
Oui, puis-je seulement dire une chose encore sur la France, parce que ça me semble important. C'est-à-dire, je pense qu'il y a quelque chose qui a commencé sous Sarkozy, lors de la question du ministère de l'identité nationale, et qui a été très très fort pendant les dernières élections politiques. C'est-à-dire, il y a eu vraiment, et ça serait, je pense, quelque chose sur lequel on devrait réfléchir davantage, un retour à l'idée qu'il faut une culture historique centrée sur la fierté de la France et sur la tradition française par toute une série de personnages de la droite mais aussi de la gauche, et je pense par exemple à Mélenchon, qui est très très important. Donc je pense que nous devons peut-être réfléchir davantage sur ce retour de l'histoire nationale dans les derniers temps et qui ne concerne pas seulement les Gilets jaunes. Pour l'Italie, oui, bien sûr, il y a des analogies très importantes. La première et la plus importante, c'est celle que vous venez d'évoquer, donc l'idée d'un groupe politique qui s'appuie sur une plateforme numérique et que, comme Christophe Prochasson l'a déjà remarqué, et je dirais centré aussi peut-être à la base d'un certain présentisme du phénomène. Il y a, je dirais, deux choses qui ne coïncide pas, et c'est le fait que le mouvement 5 étoiles en Italie a été, je dirais, la création d'un chef, Beppe Grillo, et que donc la naissance est tout à fait différente, parce que nous continuons de dire que ici il n'y a pas de représentant des Gilets jaunes, alors que je dirais en Italie le mouvement 5 étoiles est géré par un patron, ou au moins par deux patrons. Mm-hmm. Je dirais il y a des patrons très importants. Autre différence, je dirais, avec l'Italie, c'est que le mouvement 5 étoiles n'a pas produit des moments de violence. Il n'y a pas eu de moments de violence en Italie. Et il y a un autre élément de similitude qui me semble très important du point de vue historique, et que c'est le syncrétisme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le mouvement 5 étoiles, comme le mouvement des Gilets jaunes en France, mélange des thèmes tout à fait différents et des thèmes de droite, des thèmes de gauche, et je dirais que ce que nous avons, ce que parfois nous pensons comme un défaut, c'est-à-dire le manque de cohérence, est en réalité un grand atout de ces mouvements, c'est-à-dire le fait de pouvoir cumuler des références et des discours incohérents, ce n'est pas quelque chose qui affaiblit ce mouvement, mais c'est quelque chose, au contraire, qui renforce la capacité de parler à des groupes différents. Et c'est là peut-être que nous pourrions interroger une analogie historique plus profonde et plus difficile, qui est de certains mouvements populistes comme le péronisme, mais aussi comme le fascisme en Italie.
Pourquoi? Expliquez-nous.
Parce que si nous pensons à, par exemple, à la prise du pouvoir de Mussolini, je ne suis pas en train de dire que les Gilets jaunes sont fascistes. Absolument pas. Mais je veux dire, c'est cet élément du syncrétisme qui me semble très important. Cette capacité de pêcher, je dirais, de nourrir le discours politique avec des éléments tirés de la gauche et des éléments tirés de la droite. Donc on peut parler en même temps de sécurité, mais aussi de justice et d'égalité. Et ça me semble être quelque chose de très très important.
Mais alors, donc, si vous ne faites pas la conclusion, le raccourci selon lequel les Gilets jaunes...
Absolument pas.
Donc alors, puisque ça n'est pas ça que vous souhaitez faire, une fois que vous avez fait ce rapprochement, qu'est-ce qu'il permet de penser, ou à quelle conclusion aboutit-il, Sabina Lauriga?
Mais alors, comme Christophe Prochasson l'a déjà dit, nous ne pouvons faire que des hypothèses et très incertaines, parce que le mouvement vient de naître, donc vraiment, on doit être très, très prudent. Moi, je n'ose pas faire des prévisions sur ce que le mouvement, comment il peut se développer, parce que vraiment, c'est trop tôt, je pense. Mais, en revanche, ce qui me semble important pour la réflexion, je dirais, politique et historienne, c'est justement de ne pas penser ces mouvements de manière cohérente, mais de creuser davantage cette capacité de syncrétisme d'une culture politique.
Je peux prolonger
Christophe Prochasson, bien sûr,
là-dessus, sur cette incohérence que vous signalez. C'est aussi une incohérence dont, d'une certaine façon, a profité Emmanuel Macron, c'est-à-dire de coaguler des sensibilités très très différentes et d'en faire d'une certaine façon la théorie. Et pour prolonger cette remarque, enfin votre analyse, il me semble que on voit ce syncrétisme que selon votre formule, ce syncrétisme, on le voit aussi dans les formes d'appropriation internationale, puisque ici et là, on voit des gilets jaunes, des mouvements du gilet jaune dans plusieurs pays, par exemple en Belgique. Et moi, j'aimerais bien savoir, au fond, qu'est-ce que le langage, le syntagme gilet jaune signifie en Belgique. Et je vais prendre un autre exemple qui est intéressant. Hier ou avant-hier, je ne sais plus, a eu lieu en Allemagne la commémoration de l'assassinat de Rosa Luxembourg et de Karl Liebknecht. Et dans la manifestation, donc essentiellement portée par les communistes allemands ou ce qui en reste, il y avait aussi des gilets jaunes, ce qui donne évidemment une autre signification. Et cette internationalisation toute relative, la France se prend toujours pour le nombril du monde, toute relative du mouvement gilet jaune, va aussi dans ce sens-là. C'est-à-dire que, en fonction des nations concernées, les gilets jaunes veulent dire, au fond, quelque chose, non, en quelque sorte, ou stop, ou mais pour des forces politiques parfois totalement contradictoires.
Mais alors, justement, parce que pour tenter de comprendre les parallèles à la fois historiques et nationaux que vous faites, Sabina Loriga, vous dites voilà, le fait d'avoir des éléments syncrétiques, ça peut renvoyer à l'expérience mussolinienne, mais il se trouve qu'aujourd'hui, cette expérience syncrétique, elle est également au cœur de la République en marche, puisque a priori Emmanuel Macron s'est fait élire sur l'idée qu'il serait à la fois de droite et de gauche, alors même que l'on voit qu'un phénomène qui pouvait passer pour oublié ou passer de mode, comme par exemple la lutte des classes, semble être finalement peut-être un peu plus d'actualité qu'on ne le pensait en France. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une tentative de gommer les clivages politiques, mais une tentative qui est une tentative vaine? Est-ce que ça signifie que finalement on voit naître de nouvelles formes de conflits et de clivages politiques? Qu'en pensez-vous?
Mais je pense deux petites choses. D'une part, que nous avons Christophe Prochasson a déjà parlé de crise des grands récits, d'effondrement des cultures politiques, et donc évidemment il y a là quelque chose qui se passe, et ce besoin de syncrétisme, je dirais, surgit aussi de cet effondrement. Donc tout le monde est un peu obligé à bricoler. Et ça, c'est la première chose que je pense. La deuxième chose qui me semble très importante, il y a, de ce point de vue, je pense que les gilets jaunes sont un symptôme de quelque chose de plus large. Peut-être ne représente pas tellement une nouveauté. C'est pour ça que tout à l'heure, j'insistais sur la dimension nationale. C'est-à-dire que de la même manière que les gilets jaunes, les références historiques sont des références nationales qui ont été partagées dans les dernières 10 années par d'autres protagonistes culturels et politiques, il me semble aussi que ce syncrétisme, c'est quelque chose de partagé aussi par d'autres protagonistes politiques. Dans le cas de l'Italie, c'est évident. Nous avons une stratification et nous pouvons voir, je dirais, les 20 années de Berlusconi, Et après, je dirais le gouvernement Renzi, comme quelque chose qui maintient des ennemis, des adversaires, disons, des mouvements 5 étoiles, mais comme des expériences politiques qui ont nourri cette manière de penser la politique. Donc, il me semble que ce que je veux dire, qu'il y a des continuités dans les dernières années qui, je dirais, ouvre à ce genre de mélange et à ce genre de confusion apparente, je dirais.
Un mélange avec, là aussi, un autre rapport au temps. On en parlait tout à l'heure, Christophe Prochasson. Est-ce que la période que nous vivons marque un bouleversement du temps politique? Là, il y a un temps de débat qui s'est ouvert jusqu'au 15 mars. Qu'est-ce qui va se passer d'ici au 15 mars? Quel nouveau rapport au calendrier va-t-on entretenir? Puisque ça signifie que d'ici au 15 mars, il n'y aura aucune décision politique. Est-ce que ça, c'est compatible avec une pratique normale de la démocratie? Qu'en pensez-vous?
Bon, il est évident que entre le temps des politiques publiques, si j'ose dire, et le temps politique tel qu'il nous est donné aujourd'hui, rythmé même par des rendez-vous nouveaux hebdomadaires. Enfin, c'est une chose assez nouvelle que, d'une certaine façon, dans le temps politique, on attend maintenant chaque samedi avec cette déclinaison en acte qui est une nouvelle façon de structurer le temps qui vient compléter, si j'ose dire, le temps des élections, qui est un temps démocratique. Et encore, il y en a plusieurs, des élections. La durée de vie des hommes politiques. Enfin, bon, il y a plein de temps emboîtés. Et là, ce mouvement a créé un nouveau temps. Et effectivement, ce nouveau temps percute le temps normal que s'était donné Emmanuel Macron, avec un calendrier prévoyant des réformes, accélérant les choses, etc. Donc, on peut s'interroger. Enfin, je pense qu'il y a une... Frédéric Seitz parlait tout à l'heure de jeu de Rubik's Cube. Je pense que pour Emmanuel Macron, c'est aussi du Mikado qu'il fait. C'est-à-dire que il doit maintenir un certain nombre d'équilibres dans un champ de foire, quoi. Donc c'est une vraie difficulté de ce point de vue-là. Mais ce que je pense sur le temps, c'est l'urgence qu'on sent dans le mouvement lui-même. C'est-à-dire que, voyez, cette affaire des ronds-points, ça dit quelque chose, me semble-t-il, du temps aussi. C'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure sur la volonté d'avoir quelque chose immédiatement, tout de suite. C'est-à-dire que les ronds-points, qu'est-ce qui se passe dans les ronds-points? Ça pourrait s'apparenter à une vieille pratique d'occupation ou de blocage. C'est-à-dire qu'on, d'ailleurs, c'est aussi fait pour ça. C'est-à-dire qu'on bloque pour gêner, pour faire pression, etc. Bon, donc c'est ce qu'on appelait traditionnellement l'occupation, et ça pourrait évoquer d'anciennes occupations, à commencer par des occupations d'usines, dans les mouvements sociaux que l'on connaît bien, en tout cas dans les cultures politiques occidentales. Mais je crois qu'il y a plus que ça. Il y a dans cette occupation ce que j'appellerais volontiers une habitation. C'est-à-dire qu'on habite aussi un espace, on organise sa vie, on y mange, on crée des liens particuliers. Alors, il est vrai, là encore, que cette dimension-là n'était pas absente des mouvements sociaux traditionnels, mais là, ça me semble prendre une force, une intensité exceptionnelle, et qui renvoie à ce rapport au temps. Encore une fois, on attend pas, comme on dit, par exemple, prenons l'exemple du Front Populaire, on occupe les usines, on fait la fête, les soupes communistes, etc. Mais on attend aussi les lendemains qui chantent. C'est pas tout de suite, c'est provisoire. On attend des lendemains qui chantent, qui réconcilieront l'homme avec l'homme, etc. et ouvriront sur une ère nouvelle. Là, c'est pas les lendemains qui chantent, on les attend pas, ces lendemains. C'est encore une fois ce présent qui s'impose comme temps politique principal dans ce mouvement. Et alors, évidemment, excusez-moi, je finis. Évidemment, ça percute complètement le travail des politiques. J'ai vu que l'ancien président de la République disait qu'il n'était pas facile de gouverner la France. Oui, en règle générale, ni n'importe quel pays d'ailleurs, ni n'importe quelle institution. Mais là, ça va être encore plus compliqué d'une certaine façon, parce que, évidemment, les conséquences de la mise en œuvre des politiques publiques quelle qu'elle soit, sont forcément un peu plus éloignées que l'exigence de l'immédiateté de ce vivre ensemble.
Sabina Loriga, oui. Là-dessus, est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a une modification du temps démocratique ?
Oui, je partage avec ce que Christophe Prochasson vient de dire, et je pense aussi que peut-être pour cette raison, l'un des enjeux qui nous concerne, c'est la question du désaccord et du dissensus. C'est-à-dire, nous vivons une phase qui est par ailleurs passionnante de démocratisation, je dirais, de la prise de parole et de, avec la crise, disons comme ça, des grands récits, il y a des récits spécifiques, particuliers, fragmentés, maintenant l'enjeu politique qui se pose à notre société, est-ce que nous sommes capables, je dirais, de développer une possibilité de convivre avec des accords, de discuter davantage, et je dirais de sans violence, mais je dirais de hausser notre capacité à vivre les désaccords politiques et sociaux.
Le mouvement des Gilets jaunes en France, il renvoie aussi à un mouvement que vous avez connu en Italie, le mouvement des fourches, le mouvement des forconi, c'est comme ça qu'on dit en italien. Ce mouvement que vous avez connu, c'était il y a 5 ans, était lié à des paysans qui en avaient assez de la pression fiscale. Est-ce que là aussi, on pourrait pas tenter un rapprochement ?
Oui, mais je dirais que ça n'a pas pesé énormément. Et si c'est comme ça, c'est quelque chose qui a été vraiment une temporaire et qui après n'a pas eu, je dirais, des conséquences politiques très importantes.
Donc, on ne peut pas du tout en faire l'annonciateur des changements politiques qui ont...
Voilà, non. Je pense que non.
Christophe Prochasson.
Juste un mot pour poursuivre ce que disait... Sabina Loriga, et au fond ce que nous attendons, c'est-à-dire que quelque chose qui pourrait être une nouvelle raison démocratique, qui soit, je reviens un petit peu au débat aussi qui est ouvert aussi, une raison démocratique qui soit tout aussi étrangère, j'allais dire, aux tyrannies de l'expertise qu'aux démagogies populistes. Ce qui n'est pas facile à faire. C'est-à-dire qu'on voit bien comment ce qui a aussi bloqué le débat dans les dernières années, c'est qu'il a été capturé, monopolisé par ce qu'on a appelé des experts, qu'adorent d'ailleurs les chaînes continues en conviant des experts avec l'idée qu'à chaque problème, une solution. Bon, et cette confiscation du débat par l'expertise a interdit, je crois, ou limité un débat plus ouvert, qui aurait sans doute dessiné des perspectives un peu différentes et préparé au fond les uns et les autres à cette nouvelle raison démocratique. Et cette tyrannie de l'expertise a d'une certaine façon engendré son contraire, c'est-à-dire ce que je disais, les démagogies populistes, c'est-à-dire la mise en cause non seulement de l'expert mais au fond de tout savoir ou de tout détenteur de savoir qui consacre sa vie comme les chercheurs le font à trouver des idées voire parfois audacieusement des solutions. Et donc là, il y a un énorme travail à mener qui, en effet, passe par l'acceptation du désaccord et du dissensus. Une dernière remarque. Dans les dernières années, a surgi une nouvelle forme de débat qui pourrait être une des pistes pour créer cette nouvelle raison démocratique, qui sont ces conférences de consensus qui se sont un petit peu...
C'est-à-dire
je pense à celle qu'avait engagée Madame Taubira lorsqu'elle était ministre de garde des Sceaux, c'est-à-dire où on met autour de la table un ensemble non seulement d'acteurs concernés par la question posée, mais aussi d'experts... mais aussi de savants, mais aussi de chercheurs, enfin bref, de toutes sortes de personnes qui ne se parlent pas le plus souvent et qui là sont mis dans le débat avec des points de vue différents, en se confrontant et en s'écoutant. Je pense que c'est une forme de débat, que ces conférences de consensus, qui me paraît intéressante et pouvoir appeler à se multiplier si l'on veut éviter que ce débat ne soit, comme on peut le craindre, qu'un coup de com', qu'une façon un peu artificielle de clore la crise.
Y a-t-il eu des périodes de débat un peu semblables à celui-ci en Italie, Sabina Loriga? On a parlé des consultations qui avaient été faites par le mouvement 5 étoiles sur une plateforme numérique. Qu'est-ce qu'elles ont donné? Bon, il y a aujourd'hui un certain scepticisme à l'égard de cette méthode en Italie.
Oui, non, je ne pense pas qu'il peut. Il ne s'agit pas de véritable débat, c'est-à-dire pas dans le sens dans lequel nous sommes en train de penser des débats qui sont capables, voilà, de nourrir une véritable culture démocratique. Parce que, de toute manière, je suis désolée de le dire, mais la plateforme du mouvement 5 étoiles, c'est une manière très expéditive de parler. Donc, c'est très. Il y a aussi des côtés autoritaires parce que, comme je l'ai déjà dit, de ce point de vue, le mouvement 5 étoiles n'est pas la même chose que le mouvement des Gilets jaunes. C'est un mouvement qui a été créé par le haut et qui a, avec des formes de contrôle, je dirais, très très strictes. Donc, il n'y a pas eu de forme de débat et surtout dans une situation italienne. Encore une fois, qui est plus large que le mouvement 5 étoiles et qui est, je dirais, marqué par 20 ans de Berlusconi. Et donc, je pense qu'il y a un véritable défaut de ce point de vue, d'un véritable débat politique.
Un débat, on va beaucoup en parler sur l'antenne de France Culture aujourd'hui. Et puis, on va en parler également à l'École des hautes études en sciences sociales. Comprendre les gilets jaunes, c'est une journée que vous organisez. Présentez-la nous, Christophe Prochasson.
Oui, Guillaume Herner, merci de rappeler cela. L'École des hautes études et surtout Romain Huret, Dominique Linert organisent quatre rencontres. Le 23 janvier, le 4 février, le 7 février, le 11 février autour des gilets jaunes, avec des entrées très différentes, hein, gilets jaunes et classe populaire, donc une première ébauche de sociologie des gilets jaunes. Deuxième journée consacrée aux revendications, mobilisations, répression. Troisième à la crise de la démocratie dont nous avons parlé. Et la dernière intitulée inégalité et justice sociale, avec des intervenants comme Florence Aubenas, Gérard Noiriel, Julia Cagé, Antoine Bozio, Alexis Pire et bien d'autres.
Oui, non, si je peux ajouter une petite chose, le 25 janvier, toujours à l'École des hautes études en sciences sociales, nous organisons un débat public autour de Macron et l'histoire avec Christophe Prochasson, Marc-Olivier Barouche et Sylvie Tenon à 18h. Et peut-être c'est là aussi une occasion pour revenir sur ce thème.
Merci en tout cas d'avoir participé au matin et de nous avoir éclairé sur ce grand débat national. Merci Sabina Loriga et merci à vous Christophe Prochasson.